c'est bien d'aimer Dieu. C'est indispensable d'aimer Dieu. Et je voulais justement vous dire à ce sujet-là, est-ce que vous croyez en Jésus? Ouais, c'est sûr. Il y en a qui se prononcent pas, hein. Eh bien, vous avez tort. Eh bien, quand vous dites que vous croyez en Jésus, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que vous croyez que c'est Dieu qui est devenu un homme, qui est né de la Vierge Marie et du Saint-Esprit, qui est né dans la grotte de Bethléem, qui a vécu pendant 30 ans caché, pendant 3 ans, d'une manière publique, à faire des miracles, à prêcher, qui est mort, qui est ressuscité et qui est monté aux cieux? Est-ce que c'est à ça que vous croyez quand vous dites que vous croyez en Jésus?
Oui, mais c'est un plus quand même.
Quoi plus? Explique.
Mais c'est Dieu notre créateur, donc du coup, ben, on doit l'aimer plus que ça.
Oui. Oui, mais il faut croire plus que ça, surtout. Bien sûr, l'aimer, t'as raison, il faut l'aimer plus. Mais croire en Jésus, puisqu'il est, il a disparu à nos yeux, puisque depuis son ascension, il est devenu invisible pour nous. Croire en lui, ça veut dire, ça implique que nous croyons, que nous acceptons et que nous adhérons à cette réalité qui fait que le monde et nous-mêmes ne vivons pas simplement nos quelques années de vie terrestre. Si on croit en Jésus, ça veut dire, et si on croit que Jésus est présent, ça veut dire qu'on croit qu'il y a une autre vie, qu'il y a une vie qui n'est pas la vie que j'oserais appeler historique, si vous voulez, de la vie physique, intellectuelle, scientifique, rationnelle, temporelle. Mais il y a une autre vie. J'avais l'intention aujourd'hui de vous parler d'un vous savez, depuis 40 ans, tous les dimanches, je vous commente les évangiles ou les épîtres du jour. Mais pendant la semaine, il y a aussi des épîtres et des évangiles qui sont lus et qui sont aussi intéressants, comme tous les évangiles. Et cela, on ne les commande jamais. Et hier, il y avait l'évangile selon saint Matthieu qui parlait de l'Apocalypse, de la fin des temps. Et on voit Jésus qui, avec ses disciples, est au temple de Jérusalem, qui est en train d'être construit. Il était déjà bien avancé, mais il était encore en construction. Et ils étaient en admiration devant la splendeur de cette construction, devant l'immensité de cette construction. Et le Seigneur leur dit, là c'est, je le traduis à ma manière pour faire ressortir des choses, mais ce n'est pas dit comme ça exactement dans l'Évangile. Il dit, ça vous épate, hein? Tellement ils étaient en admiration. Et il y avait d'une certaine manière de quoi? Il dit, oui, mais vous tracassez pas, hein, de tout ça, il restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. Et cette construction-là, c'était l'orgueil, c'était la gloire, c'était la vitrine pour le peuple d'Israël de leur grandeur, de leur splendeur. Et d'annoncer, tout le monde en était fier, et d'annoncer que ça allait être détruit, c'était purement et simplement scandalisant, si vous voulez. Et le Seigneur leur annonce ça. Et après, ils montent, ils passent la vallée du Cédron, ils passent de l'autre côté, sur une autre colline, en face du temple cette fois-ci, Et il est devant le, il est sur le monde, et le monde est des oliviers. Et de loin, il voit le temple. Et les disciples lui demandent, mais alors, et ça, quand est-ce que ça arrivera? Comment ça se fera? Et le Seigneur leur fait comprendre que le vrai temple, c'est pas le lieu de la demeure de Dieu, n'est pas un bâtiment, si beau soit-il, mais que c'est la, le Jésus lui-même, parce qu'il est Dieu et homme, qui est ce temple-là. Et il dit d'ailleurs, ce temple-là, abattez-le, détruisez-le, en 3 jours il se relèvera. C'est-à-dire, il annonçait par là qu'il se prend, à juste titre, pour le vrai temple, la vraie demeure de Dieu. Il sait qu'il va être tué, qu'il va mourir, et que 3 jours après, il va ressusciter. Mais sa résurrection ne va pas être une revivification, ne va pas être un retour en arrière comme s'il n'était pas mort. Ça va être un dépassement de la mort et de la vie. La vie à un autre étage, à un autre niveau de la... un autre niveau de la vie humaine, la vie éternelle. Et c'est cette vie là justement à laquelle on croit précisément quand on dit je crois en Christ, c'est dire qu'on croit en cette vie éternelle. Et si on y croit, c'est pas simplement comme on croit à une histoire, c'est que on y adhère, on le veut, on s'y prépare. On l'attend, on la désire, cette vie-là. Et toute notre vie chrétienne et le sens de la vie de tout homme, même s'il n'en a pas conscience, c'est de préparer, de s'ouvrir, d'ouvrir son intelligence et surtout l'intelligence de son cœur, de l'ouvrir à cette autre réalité, à cet autre niveau d'existence, à cette vie éternelle. Et l'action du Christ dans nos vies, en s'incarnant, en devenant homme, en se donnant à nous par les sacrements, par la communion, par le baptême, par tous les sacrements, tout ce qu'il a fait, c'est de nous ouvrir petit à petit. C'est une aide pour nous ouvrir à cette réalité. Bien, j'allais dire, une réalité réelle, je ne sais pas comment, bien concrète, si vous voulez, même si elle n'est pas d'ordre matériel. Ce n'est pas toujours facile d'arriver, ou même de commencer à concevoir, à désirer cette vie éternelle. C'est si peu facile pour les hommes que Dieu a envoyé le Verbe de Dieu, la deuxième personne de la Sainte Trinité, l'a envoyé sur terre pour devenir homme comme tous les hommes, sans aucune limite, et que lui-même, en tant qu'homme, a réappris, si je puis dire, a réappris à vivre par amour pour nous les hommes, à revivre au-dessus de sa propre nature humaine. Et étant donné que nous sommes tous très liés les uns avec les autres, ce qu'il a réussi à faire en coupant avec sa volonté humaine, qui est déchue aussi, comme toute la nature humaine, donc avec toutes les tentations d'égoïsme qui pouvaient être les siennes, tentations seulement, mais il a refusé de sombrer dans toutes les formes d'égoïsme que je ne décris pas tout de suite, y compris l'égoïsme, si je peux l'appeler comme ça, de vouloir échapper à la mort et à la souffrance, et l'ayant vécu intimement dans tout son être, et il nous le communique à nous, non pas comme un exemple à suivre. Bien sûr que c'est un exemple. Mais on n'a pas la force de suivre cet exemple-là. Mais il nous a... Parce que nous partageons la même nature, il nous a communiqué un dynamisme, un feu, un mouvement auquel on peut adhérer ou qu'hélas on peut refuser aussi. Mais il nous communique une chaleur intérieure, il nous communique une foi, il nous communique une force pour acquérir cette vie éternelle. Et c'est pour ça qu'il est tellement important de venir chercher à la source qu'est le baptême, que sont les sacrements, qu'est la vie de l'Église. Il est tellement important de venir d'acquérir tout ça, parce que là, on acquiert la force même de Dieu. Parce que vous comprenez bien que notre nature étant déchue, notre nature étant devenue égoïste, enfermée sur elle-même et enfermée sur la contemplation d'elle-même, c'est-à-dire clos dans notre monde visible, sensible, dans notre monde rationnel, dans notre monde humain, si vous voulez. On est tellement enfermé là-dessus qu'il nous est impossible, nous, de crever la gangue de notre ego, de notre égoïsme. Il nous est impossible de comprendre et même de désirer ce qui se passe dans le royaume des cieux, la vie éternelle, parce qu'on ne connaît que la vie temporelle. Il faut donc que ce soit Dieu lui-même qui, à l'intérieur de nous-mêmes, fasse tout le travail de conversion. Mais il y a une conversion qui est nécessaire. Et cette conversion ne consiste pas seulement à lutter contre nos passions, contre nos fautes, il n'y en a pas qui soient belles, il n'y en a pas qui soient plus glorieuses que les autres. On est tous pécheurs, on partage tous cette déchéance de notre nature, mais chacun à notre manière. C'est pour ça qu'on ne peut pas se juger les uns les autres, parce qu'on ne vaut pas mieux que les autres. Bref, étant donné qu'on est déchu comme ça, pour sortir de cette... la conversion ne consiste pas seulement à lutter contre nos passions, contre nos péchés, contre nos fautes morales, entre autres, mais la conversion consiste à découvrir, à crever la gangue dont je vous parlais tout à l'heure, pour voir avec les yeux de la foi, avec les yeux du cœur, pour voir qu'il existe un autre monde, ce monde de la vie éternelle, ce monde auquel on participe par les sacrements. Et quand on dit « je crois en Jésus », ça veut dire « je crois qu'il y a cette vie éternelle et j'y crois et malgré ma faiblesse, mais avec sa force à lui, je veux y accéder, je veux collaborer, je veux accepter cette vie. » C'est ça la conversion. N'entendez pas, bien sûr qu'il faut lutter contre ses passions. Je suis orgueilleux, vaniteux, autoritaire, colérique. Je passe pas les meilleurs parce que vous risqueriez de croire que c'est vrai. J'ai un tas de défauts. J'ai bien du mal à lutter contre. Hein, mais la conversion, c'est pas d'arriver à lutter, d'arriver à vaincre ça. Je suis un menteur, je suis un fief et menteur, je suis comme ça. Vraisemblablement, jusqu'à la fin de ma vie, je resterai un menteur. Mais je peux déjà essayer de lutter un peu contre le mensonge et au moins essayer de le regretter, même si je ne peux pas m'en passer. Mais la conversion, c'est qu'un début, c'est un tout petit élément. La vraie conversion, c'est changer l'orientation de notre cœur ouvrir notre cœur à une autre dimension, c'est d'ailleurs ouvrir à la dimension de Dieu, ouvrir à la foi. Croire que Jésus avait existé il y a 2000 ans, qu'il avait fait des miracles, et qu'aujourd'hui il peut encore nous apparaître, et qu'il finalement il peut peut-être un peu diriger notre vie, ça c'est du... Ça ne veut rien dire, c'est pas de la foi ça. Il y en a qui croient que Bouddha, ce qui n'est pas faux d'ailleurs, est né il y a 3000 ans ou 4000 ans, 3000 ans je crois. Voilà. Il y en a qui... On peut croire en une foule de choses, on est tous des croyants. Mais de croire en Dieu, Père, Fils et Esprit, ça veut dire qu'on peut croire en une autre vie. Et dimanche prochain, si j'ai le courage, j'essaierai de vous expliquer l'évangile auquel je faisais allusion, qui justement commence par cet appel à la foi. En voyant, quand ils voient ce temple, quand les apôtres voient ce magnifique temple, et que le Seigneur leur apprend, leur prédit que dans quelques années, il va être complètement détruit, effectivement, 40 ans après, en 70 après Jésus-Christ, les Romains l'ont complètement détruit. Et quand il leur fait comprendre aussi que le vrai temple, c'est lui-même, et que lui-même va être détruit par la mort, mais que 3 jours après, il va se relever, c'est-à-dire il va ressusciter dans l'autre vie, cette révélation-là est la révélation fondamentale que depuis 2000 ans, l'Église ne cesse de proclamer, et c'est ça qui peut nous accorder la vraie joie dont je vous parlais tout à l'heure après la communion. Donc, entrez tous dans cette joie-là, désirez-la et convertissez-vous. Je n'ai personnellement aucun intérêt à ce que vous vous convertissiez, sauf un. Mon intérêt pour que vous convertissiez, c'est que quand Dieu est amour, et si cette vie-là, c'est une forme d'amour, l'amour implique qu'il soit partagé par le maximum de personnes. Donc plus nous serons nombreux à partager le même amour, plus nous serons heureux, chacun d'entre nous heureux aussi. Donc l'intérêt que j'ai dans votre conversion, c'est pas directement égoïste pour être plus heureux moi-même, mais c'est pour savoir qu'on est beaucoup plus nombreux à être heureux et joyeux. Convertissez-vous vite, parce que les temps approchent, la fin des temps approche, notre foi est mise au pilori, notre foi est montrée du doigt, elle est combattue, et elle se refroidit. Globalement, elle se refroidit, mais s'il n'y a pas cette foi-là, il n'y a pas de salut éternel. Et il faut se dépêcher de se convertir, il ne faut pas attendre, n'attendez pas d'avoir 74 ans pour dire « je vais commencer à me convertir ». Convertissez-vous quand vous avez 5 ans, quand vous en avez 18, quand vous en avez 25, quand vous en avez 30, quand vous en avez 60, etc. Quel que soit l'âge qui est le nôtre, on ne fait que de commencer à se convertir. Ne prenons pas conscience de ce qu'on a déjà fait. Il n'y a rien eu de fait. Et la conversion, c'est quelque chose qui se fait chaque jour, à chaque instant. Et c'est comme ça qu'on participe, qu'on connaît déjà quelque chose de la vie éternelle à chaque instant. Mais n'ayez pas peur de cette conversion. Elle est radicale, parce que je vous dis, c'est un changement de perspective, un changement d'analyse du monde, d'analyse de notre vie. Mais elle est facile à faire, parce que c'est le Christ qui l'a fait en nous. Bien plus facile à faire, c'est bien plus facile que la conversion des mœurs, que de la conversion de nos passions, si vous voulez. Allez, bonne conversion.